France Musique. France Musique, les grands entretiens. Benjamin François.
Florence Malgoire, née un 9 mars après minuit à Dugny, et je suis violoniste.
Bonjour Florence.
Bonjour Benjamin.
Vous êtes née dans une famille de musiciens. Votre père, Jean-Claude, était oboïste et votre maman, flûtiste.
Oui, je suis issue d'une famille de musiciens. Ma mère, ma maman, France Gombert, puis France Malgoire et Jean-Claude Malgoire, tous les deux musiciens. Donc France était flûtiste, elle a fait ses études à Lille. Elle était de Saint-Omer et a commencé la musique assez tard. Elle devait sans doute être très douée puisque en 4-5 ans, elle avait son diplôme de piano et de flûte traversière. Puis est descendue à Paris pour étudier rue de Madrid la flûte traversière. Et là, elle a rencontré Jean-Claude. Donc Jean-Claude qui était monté, lui, à Paris depuis le sud.
Avignon.
Depuis Avignon. Pour aussi étudier le hautbois au conservatoire rue de Madrid. Alors mes parents, c'est deux personnages au caractère bien trempé. On pourrait dire le soleil et la lune, ou peut-être comme cette pièce de Carl-Philippe Emmanuel Bach que j'adore, qui s'appelle « Sanguineus et Melancholicus », le sanguin et la mélancolique. Voilà, deux personnages très hauts en couleur, très fantasques, assez extraordinaires. Et puis avec le recul, ils m'ont transmis la musique, bien sûr, et tant d'autres choses. Mes grands-parents, du côté de maman, vivaient à Saint-Omer. Donc mon grand-père Désiré Gombert, était passionné de musique, de peinture. Puis bon, il est né à la fin du 19e siècle, donc il a connu les deux guerres. Et pour la deuxième, il a d'ailleurs été torturé par la Gestapo. Il en est ressorti par miracle de justesse. Il est devenu très mystique. Et ma grand-mère, Mathilde, elle était maman au foyer de manière tout à fait traditionnelle, adorable. Et puis mes grands-parents du côté paternel, eux, à Avignon et Menton. Donc ma grand-mère italienne, qui est décédée d'ailleurs l'année dernière à 104 ans et demi. La maman de Jean-Claude, italienne, et mon grand-père aussi de l'Hérault, Jean. J'ai navigué entre deux accents très différents, des mentalités très différentes, et puis la cuisine aussi, hein, parce que il y avait la tarte au maroilles dans le nord, et puis les pâtes au pistou, la soupe au pistou dans le sud. Donc, de par le mariage de ces deux personnalités si différentes et de leurs parents, il y avait vraiment comme deux pays. J'ai vécu en fait toute ma petite enfance à la Courneuve, le soir où je suis née. Mon père faisait un concert ce soir-là, de quatuor de Mozart. Je l'aurais attendu avant de venir au monde. Il a enfourché son solex à la fin du concert et je suis née. Donc il a toujours dit « Florence est née sous le signe de Mozart ». Et donc cette petite enfance très joyeuse, oui, c'est une vie très contrastée puisque j'ai très jeune, vécu dans des milieux très différents, ce qui fait que je me sens tout à fait à l'aise un peu partout, on va dire, parce que à la Courneuve, à l'époque, de jeunes parents comme les miens, mon père avait quand même 19 ans et demi quand il m'a eu, 19 ans et demi. C'est vraiment très jeune. Et maman avait 24 ans, avait élu cette banlieue pour avoir de l'espace, parce qu'ils n'étaient pas très argentés. Certains finissaient leurs études. Mais donc, il y avait une mixité sociale très intéressante, puisqu'il y avait aussi des étudiants, des jeunes parents étudiants, des jeunes parents médecins. Il y avait beaucoup d'immigration, des ouvriers. À côté de chez moi, il y avait un bidonville. Donc, à l'école, je suis allée en maternelle et en primaire avec toutes sortes d'enfants venant de parents, de milieux vraiment divers, une vraie mixité sociale. La vie était comme ça. Et puis bon, très tôt, j'ai conscientisé aussi que j'étais dans une famille quand même particulière, puisqu'on écoutait de la musique toute la journée. Il y avait maman qui travaillait sa flûte. Bon, le papa, alors Jean-Claude était un père fantastique, avec la vie trépidante qu'il avait de concert, et puis l'éclectisme qu'on lui connaît. Donc quand il revenait de tournée, c'était fabuleux, parce qu'il arrivait, il sortait de sa valise des cadeaux. Donc ça allait de la gondole de Venise à la boîte à rire de Tokyo. Puis il commençait à faire sa cuisine, donc ça sentait les épices, il y en avait partout dans la cuisine. Avec ma mère qui disait, mais c'est vraiment le soupe quand tu reviens. Et puis sur la table, dans la pièce commune, j'ai vu depuis ma tendre enfance mon père écrire les partitions. Et puis aussi, il y avait à toutes les fenêtres des petits fils rouges, c'était la fabrication des hanches. Donc il y avait une sorte d'atelier d'hanches sur la table et des partitions. Maman était plus dans l'ombre et assurait le quotidien, les repas, les devoirs. Et mon père, c'était le père événementiel, qui nous faisait faire beaucoup de choses. D'ailleurs, il m'a appris à nager. Il nous emmenait partout au restaurant, chinois. À l'époque, il y avait très très peu de restaurants comme ça, asiatiques. Et il était d'ailleurs très fier parce que j'arrivais à manger très jeune avec les baguettes.
Florence Malgoire, votre maman avait 24 ans quand votre papa en avait 19. Est-ce que ça veut dire que votre maman a aidé votre père à terminer ses études ?
Alors, il les avait terminées, ses études, et puis travaillait beaucoup. Et puis, bon, il est parti à la guerre d'Algérie. Mais c'est elle qui, justement, dans cette période quand même où elle s'est retrouvée seule avec moi, elle devait assurer le quotidien et elle avait deux métiers. Elle venait tout juste de passer le CA et donc a pu enseigner. Elle enseignait à la Courneuve et elle a été comptable. Je sais pas comment elle a fait parce qu'elle a jamais fait d'études de comptabilité. En tout cas, je sais qu'elle, durant cette période où mon père était en Algérie, elle a pratiqué ces deux métiers pour pouvoir assurer aussi le quotidien. Et puis, elle était très traqueuse, maman. Donc, elle n'envisageait pas du tout une carrière de concertiste et la transmission lui allait très bien. Et elle a aussi fait des études à Bâle, de flûte à bec. Et elle a comme ça initié aussi, avec mon père et Françoise Langelet, un département de musique ancienne au conservatoire de la Courneuve.
Il y a une autre ville qui est importante, je crois, pour le métier de votre mère, c'est le conservatoire d'Aubervilliers. Et vous y avez donné encore tout récemment des masterclass de violon baroque.
Depuis une dizaine d'années, j'ai participé à beaucoup d'événements à Aubervilliers. C'était un peu pour moi, pour rendre hommage à mes parents et à mes professeurs. J'ai beaucoup reçu de mes professeurs et de mes parents. Donc mon professeur de violon, Paulette Travez, qui avait une pédagogie fantastique. Je me souviens, toute la classe, elle nous faisait venir une fois par semaine, en plus du cours, pour faire de la technique tous ensemble, en ronde, et puis marcher, bouger, tout en faisant du Sefsik et du Shradiak. Et elle a eu cette phrase qui a résonné dans ma tête tellement plus tard, d'ailleurs, comme quoi la transmission, c'est pas forcément immédiat. Elle nous avait dit un jour, « Mais les enfants, la technique est au service de la musique. À des enfants, elle avait transmis ça. » Peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas compris, mais c'est une phrase qui qui est resté gravé.
Parlez-nous de votre frère Pascal, Florence Malgoire.
Alors, c'est un de mes premiers souvenirs quand mon frère est né. J'avais 3 ans et demi. Voilà, c'est un ange qui est arrivé à la maison. Il y avait l'arrivée de la clinique, il y avait tout le monde à la maison. Et puis, il était tout en blanc. Enfin, j'adorais mon frère. C'était un artiste aussi, puisqu'il était danseur. Il a joué du basson aussi. Son professeur, c'était Marc Minkowski quand même. Il était danseur, il était petit rat à l'Opéra de Paris. Et nous nous aimions profondément. Pascal est parti à l'âge de 25 ans, le jour de son anniversaire, dans un accident de voiture. Là, la vie a basculé. Dans mon parcours, il y a avant et après la mort de Pascal. Mais il y a des cycles.
À quel moment choisissez-vous le violon comme instrument principal, Florence Malgoire ?
Alors, je choisis à l'âge de 7 ans. J'écoutais en boucle le concerto de Brahms joué par David Oistrakh. Il y avait beaucoup de disques et de cassettes à la maison. Mais celui-là, je l'écoutais en boucle. Et il s'est trouvé qu'au conservatoire où enseignait ma maman, à La Courneuve, dans la grande salle de la mairie, il y a eu un concert de l'orchestre des étudiants avec une jeune violoniste qui a joué ce concerto de Brahms. Et là, on s'en a fait qu'un tour. Je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. J'ai dit à mes parents, mais moi, je veux jouer du violon. Et illico, mes parents m'ont acheté un violon et ils m'ont inscrite à ce conservatoire.
Avec deux parents musiciens, il est évident que ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas eu de frein ou de discussion très longue pour prendre cette décision.
Il n'y a eu aucune discussion, ils étaient absolument ravis. Mais c'est vrai qu'être enfant de musicien, c'est très complexe. Ça ne va pas du tout avec la petite enfance d'un enfant avec une vie, avec un rythme et une régularité d'horaire. Donc ça, c'est une chose vraiment difficile. Et puis, ça ne va pas forcément de soi que les enfants de musiciens fassent de la musique. Ils ont parfois aussi un rejet de la musique. Ça peut être aussi ce qui les empêche de voir leurs parents. Et voilà, il y a un peu tous les chemins, de toute façon.
Musique, les grands entretiens de Florence Malgoire.
L'année du collège, là, tout a basculé puisque mes parents se sont séparés. Et c'était vraiment une guerre. Donc, c'était vraiment difficile. Et ma maman a décidé que je devais faire des cours par correspondance puisqu'il n'y avait pas le système de cours aménagés là où nous habitions. Et donc, je me suis retrouvée à la maison à gérer mon travail. Toute ma vie sociale, à partir de là, ça a été la musique. C'est-à-dire les cours de violon, les cours de musique de chambre, les cours d'orchestre. On avait deux sessions d'orchestre le dimanche matin, deux fois par mois, avec le directeur du conservatoire, Monsieur Meunier, qui était compositeur. D'ailleurs, j'ai joué une de ses œuvres à mon examen final, où je pensais avoir fait le quart des notes. Il m'a dit, c'est exactement comme ça que je voulais l'entendre. Alors, ouf! Et depuis là, ça a été ça. Ma vie sociale, c'était relié à la musique, le partage de la musique avec mes petits camarades du conservatoire.
Il était clair qu'à partir de ce moment-là, c'était une carrière professionnelle qui s'ouvrait à vous.
Oui, c'était clair. C'était clair. C'était évident. C'était évident.
Et c'était un projet partagé par vos deux parents ?
Oui, enfin, je ne sais même pas si on en parlait, en fait. Moi, dans mes rêves, oui, c'était clair, parce que j'allais au concert et les ambiances s'y variaient, d'ailleurs, entre le Florigium Musicum, le 2e avec la musique contemporaine, et puis la Grande Écurie, la Chambre du Roi, toute cette époque où Jean-Claude passait beaucoup de temps chez la comtesse de Chambure à rencontrer des musiciens, à essayer des instruments, il y avait ses concerts privés, il y avait le jazz aussi, il s'aventurait des fois dans les caveaux avec Portal, et puis l'Orchestre de Paris. J'allais souvent en répétition de l'Orchestre de Paris. J'ai eu la chance d'assister à des répétitions du Père Krips et puis de voir ces musiciens passionnés. Alors j'étais amoureuse de Lubin Yordanov, qui était un très bel homme, affable, qui jouait si bien du violon. Et puis il y avait des musiciens extraordinaires, ils étaient sur le bord de la chaise. Ça me fascinait totalement, ce monde de la musique, de se coucher tard, de manger au restaurant, de combien de fois je suis allée aux répétitions au Théâtre des Champs-Élysées et puis aller manger le tartare en face au bar du théâtre. Entre la vie quotidienne qui était quand même très rigoureuse, avec ma maman, et puis la vie d'artiste, qui était, pour moi, de mon regard d'enfant, une perpétuelle fête.
Et c'est sûr qu'entre la Courneuve et l'avenue Montaigne, c'est pas tout à fait le même quartier.
C'est pas le même quartier. Je vous dis, je suis très à l'aise à l'avenue Montaigne, je suis très à l'aise à la Courneuve. Et avec dans des milieux différents, oui. Parce que j'ai très tôt conscientisé, par contre, que quand je vivais à la Courneuve, même s'il y avait une mixité sociale, qu'il y avait un bidonville pas très loin de chez moi. Et il y avait les 4000 logements aussi, pas très loin, où ma maman, d'ailleurs, était une des seules rares professeurs à accepter d'enseigner, qui n'avait pas peur, puis qui était de gauche. Elle était très amie avec Jacques Ralit, qui, elle, était tout à fait dans son slogan « Tous ensemble et chacun soi-même », que je trouve magnifique.
Mais ces valeurs de gauche étaient aussi, je pense, partagées par votre père.
Ses valeurs de gauche étaient partagées par mon père, mais ce qui est, elle s'affirmait beaucoup aussi parce qu'elle venait d'un milieu plus bourgeois, catholique, et pas nécessairement de gauche. Donc c'était des valeurs, elle s'est forgée vraiment son... Je pense que c'est aussi en vivant là et en côtoyant toutes sortes d'enfants, des enfants qui avaient peut-être un potentiel de plus de chance que d'autres, et elle s'est investie humainement. C'est pour ça que, si je reviens sur Aubervilliers-la-Courneuve, j'ai fait des animations. Depuis que mon premier enfant est né, je me suis dit, si chaque musicien allait gracieusement jouer dans les écoles de leurs enfants, ça créerait le public de demain. C'est une façon, peut-être. Moi, ça a été ma façon à moi. Et donc, par ricochet, j'ai été invitée à jouer en Palestine. Il y a un jumelage avec Benjala pour les journées de la paix. Et puis, j'ai fait des animations aux jeunes qui viennent des cités. Je leur avais passé des sonates de Bach avec violon et clavecin que j'avais enregistré avec Blandine Ranou. J'ai montré aussi des extraits des Paladins, le DVD auquel j'avais participé avec William Christie, où il y avait des danses de capoeira, de rap, de classique, de baroque, de contemporain. Enfin, c'était foisonnant de danses diverses actuelles. Et ils disaient « Ah, mais ça swing, cette musique !» J'aurais dit « Oui, 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 ça swing !» Thank you.
vous apprenez le violon, à l'époque, vous étiez élève en violon moderne. Le violon baroque, c'était quelque chose de relativement nouveau à l'époque. Et cette discipline ne s'enseignait pas encore dans les conservatoires.
Oui, effectivement. En fait, moi, j'étais très romantique. En fait, je vibrais avant même d'avoir posé le doigt sur la corde. Et il y a eu un moment très charnière. C'est quand j'ai décidé d'étudier le violon baroque. J'ai d'abord fait un stage avec Marie Léonard à l'hôtel de Sully, où j'avais apporté, je me souviens, la première sonate de l'opus 5 de Corelli, et j'avais trouvé les ornements de Corelli.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Oh, j'avais 17 ans. Mais oui, pour moi, il n'était pas question de faire du violon baroque avant cela. J'étais vraiment dans les concertos romantiques.
Et vous n'auriez pas pu, puisque ce n'était pas...
Non, ce n'était pas enseigné, puis je n'en avais même pas l'idée. Et d'ailleurs, il y a eu un moment assez critique quand Paulette Ravès, qui était mon professeur de violon, une seconde maman, qui m'aimait beaucoup et qui projetait beaucoup sur moi, en fait, pour ma carrière. Et puis Gérard Jarry... Quand je leur ai dit que j'avais l'intention d'étudier le violon baroque, et ça a été des hurlements. Ils m'ont dit, mais t'es une romantique, tu vas pas commencer à jouer sans vibrer, etc. Enfin, ils étaient très choqués.
Gérard Jarry, qui était quand même violon solo chez Jean-François Paillard, n'était pas vraiment un adepte du courant historiquement informé, quand bien même des partitions baroques, il a dû en avaler beaucoup avec Jean-François Paillard.
Absolument. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs stages à Valence, que le stage que faisait Jean-François Paillard avec Gérard Jarry. Gérard Jarry n'aimait pas trop le violon baroque, je crois. Et il n'était vraiment pas du tout content. Il était très fier que je vienne au stage là, de Jean-François Paillard. Et il n'était pas du tout content que je commence le violon baroque. Je vous dis, je vibrais avant de poser le doigt sur la corde. J'étais vraiment l'inverse. Et en fait... Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi d'étudier le violon baroque. C'est que ma mère, France, avait fait tout un dossier pour que j'aille étudier à Moscou. Paulette Ravès m'avait dressé un tableau de ce que serait ma vie à Moscou, quasi carcérale, avec une tasse de thé le matin et une tasse de thé l'après-midi, entre 9 heures de violon par jour. Que c'était
marche
juste...
Marche ou crève.
Voilà, marche ou crève. Que, non, je voulais éviter ça à tout prix. Et puis... Ben oui, j'écoutais quand même beaucoup de concerts de la Grande Écurie, la Chambre du Roi, des enregistrements, l'ambiance des musiciens, ces vraies personnalités, ces gens qui dans l'orchestre se permettaient de donner leur avis, et dire ah mais pourquoi on ferait pas tel tri, et pourquoi on ferait pas ceci, et pourquoi ce tempo, etc. Je trouvais ça fascinant. D'ailleurs, mon père voulait que j'aille étudier à Vienne. Et moi, j'ai bien sûr, avec mon caractère, je me suis dit « Ah non, non, non ». Je suis allée faire un stage avec Sigis van Kooijken à Bremen. Et là, Sigis m'a dit « Je te prends dans ma classe ».
L'Allegro de la sonate en Ré majeur, opus 5, numéro 1, d'Arcangelo Corelli, par Enrico Gatti au violon, Gaetano Nassillo au violoncelle, Guido Morini au clavecin. Ainsi se referme le premier volet de ces grands entretiens, réalisés par Gilles Blanchard avec Marie-Christine Ferdinand, Thomas Robin et Benjamin Vignal. Deuxième épisode de ce portrait demain, Florence Malgoire y fera ses premiers pas en violon baroque au conservatoire de La Haye, dans la classe de Sigis van Kooijken.
À réécouter sur francemusique.fr.